les nouvelles ondes.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous écoutez Les Nouvelles Ondes en partenariat avec La Péniche. J'ai le plaisir ce matin de retrouver Maxime et Rémi, bonjour.
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 Notre invité aujourd'hui, député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne depuis 2012, porte-parole du Parti Socialiste entre 2014 et 2016, il est depuis le 29 mars le premier secrétaire du Parti Socialiste. Nous recevons aujourd'hui Olivier Faure, bonjour.
Bonjour.
Alors nous reviendrons dans cette émission sur l'actualité de ces dernières semaines, sur ce climat de grève notamment et les manifestations avec celle du 1er mai, et surtout sur vos premières actions en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste. Une fois n'est pas coutume, nous ferons une pause avec l'habituel instant engagé. Et aujourd'hui, eh bien, nous accueillerons une membre du conseil d'administration d'Amnesty France, Nadia Rabhi, et Patrick Noyon, responsable du local d'Amnesty International à Nevers. À mes côtés également aujourd'hui, Gauthier à la technique. Et Fabien, qui nous présentera sa chronique en fin d'émission. Mais d'abord, commençons avec une question plus générale sur l'état actuel du Parti Socialiste dans le paysage politique français.
Donc tout d'abord, Olivier Faure, vous faites quel état des lieux du Parti Socialiste en 2018 ?
Bon, c'est un parti qui est en crise, qui sort d'une défaite historique. Nous avons fait 6,36% des voix à l'élection présidentielle. Nous avons un groupe de 30 députés. Là où nous étions 300, et nous traversons donc un moment qui est un moment charnière, qui peut être celui de notre disparition, comme celui de notre renaissance. Et évidemment, vous l'aurez compris, je fais le pari de notre renaissance. Parce que, malgré tout, nous n'avons pas été remplacés, ni par les uns, ni par les autres, ni par un gouvernement, mais qui est maintenant, à l'évidence, a démontré qu'il n'était pas de gauche, et une gauche qui aussi démontre jour après jour qu'elle n'est pas de gouvernement. Et donc, il y a nécessité d'avoir une gauche qui puisse créer l'alternance et être en situation demain de diriger ce pays.
Et pourquoi vous, Olivier Faure, vous avez personnellement choisi de candidater à la présidence du Parti Socialiste ?
Parce que je suis un militant depuis toujours. Je suis rentré dans ce parti, j'avais 17 ans. Et je crois, depuis cette époque, fermement à ce que nous portons, même s'il existe des moments de doute, des moments où je me dis que nous aurions pu faire différemment, où je crains la résignation à l'air du temps. Et puis, il y a aussi tous ces moments d'enthousiasme qui m'ont fait porter ce drapeau pendant tant d'années. Et je n'ai pas envie que nous soyons cette génération qui éteigne la lumière d'une idée qui a été à l'origine de toutes les grandes conquêtes sociales, de toutes les grandes libertés publiques au cours du siècle précédent. Et donc, je crois à cette nécessité de redresser la gauche. Et sans le Parti Socialiste, la gauche, en réalité, n'a plus de capacité à l'emporter.
C'est vrai que vous utilisez souvent le mot de renaissance, on aura l'occasion d'y revenir. Et justement, on va parler des premières mutations du Parti Socialiste, et notamment à propos des locaux qui sont passés de la rue Solferino à Ivry-sur-Seine. Pourquoi Ivry-sur-Seine ?
Pas encore. La décision n'est pas encore complètement prise. J'ai dit ma préférence allait effectivement à Ivry, parce que je pense que dans un moment où nous avons besoin de nous ressourcer, vous savez, Mitterrand avait fait le choix de passer la cité Malesherbes dans le nord de Paris, au Palais Bourbon d'abord, place du Palais Bourbon, mais des locaux très petits, puis rue de Solferino. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il disait qu'il fallait symboliser le fait que la gauche pouvait gouverner. Et donc, il la rapprochait des lieux de pouvoir, de l'Assemblée, de Matignon, etc. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si nous pouvons gouverner. Gouverner, nous l'avons fait régulièrement depuis 30 ans. La question, c'est de retrouver des milieux, notamment populaires, qui nous ont fait confiance longtemps et qui aujourd'hui nous ont abandonnés.
Est-ce que vous acceptez l'idée que le PS n'est plus une référence à gauche ? Et donc, est-ce que vous considérez que son rôle doit muter ? Ou est-ce que vous voulez absolument en faire une force majeure à gauche aujourd'hui ?
Alors, bien sûr, c'est un parti qui est en crise et qui a essaimé, si je puis dire. Il y a des socialistes partout. Il y en a à La République En Marche, il y en a chez Jean-Luc Mélenchon, il y en a chez Benoît Hamon. Et heureusement, l'essentiel est resté au Parti Socialiste. Mais donc, la question qui est posée n'est pas la question de l'avenir des uns ou des autres. La question qui est posée, c'est est-ce que demain, la gauche peut à nouveau gouverner dans ce pays ? Parce que sa division, sa fragmentation conduit à ce qu'on ouvre un boulevard pour les droites, pour La République En Marche ou pour la droite incarnée par Laurent Wauquiez. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à avoir une force qui permette d'y revenir. Je prends les élections partielles. On est à Sciences Po, vous étudiez forcément avec le souci du détail ce qui se passe dans les élections partielles, législatives partielles. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe ? Que le PS fasse 2%, c'est arrivé dans le territoire de Belfort, ou qu'il fasse 39% au premier tour. En Haute-Garonne, c'était le cas dans les Comminges. Eh bien, la France insoumise fait le même score, entre 10 et 13%. C'est-à-dire que quand le Parti socialiste disparaît, il n'y a pas de force à gauche capable d'incarner ce rassemblement et capable de l'emporter sur un second tour face à La République En Marche ou face aux Républicains. Et donc, la disparition de cette grande force centrale qui, pendant des décennies, a permis de rassembler de la gauche jusqu'au centre-gauche, quand cette force-là disparaît, il n'y a plus de gauche tout court. Et donc, ce n'est pas du patriotisme de parti que de le dire. C'est que cette force centrale, elle est nécessaire parce que si elle n'existe pas, eh bien, il n'y a plus de possibilité pour la gauche de l'emporter et donc de gouverner ce pays.
Mais donc aujourd'hui, quand on vous indique que la principale force d'opposition à gauche, c'est la France insoumise, qu'est-ce que vous répondez ?
Mais je réponds que tout ça, c'est une vision médiatique. Parce que, il y a, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a fait plus que Benoît Hamon à l'élection présidentielle, mais dans les élections qui ont suivi, juste derrière les élections législatives, ils ont un groupe de 17 parlementaires, nous sommes 30. Donc s'il fallait considérer la vérité des chiffres, nous serions la principale opposition. Il a profité du fait que pendant de longs mois, il y a eu une forme de vacance à la tête du Parti Socialiste, et donc... comme il était le plus bruyant, le plus spectaculaire, au sens vraiment du spectacle qu'il organise en permanence, eh bien, il y a eu un choix des médias de le placer comme le principal opposant. Il y a eu aussi un choix volontaire du président de la République de le prendre comme principal interlocuteur, parce que vous l'aurez compris, Emmanuel Macron a une stratégie qui est limpide et qui s'est traduite sans discontinuer depuis son élection, c'est qu'il a fait le choix des extrêmes. Le choix de l'extrême droite à droite, le choix de l'extrême gauche à gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'il a décidé à chaque fois de... C'est Malraux. C'est comment on explique qu'entre les insoumis d'un côté et La République En Marche, et de l'autre côté entre l'extrême droite et La République En Marche, il n'y a plus rien. Et donc, celui qui incarnerait à lui seul l'espace de la raison, de la modération, de la mesure, du bien gouverné, ce serait Emmanuel Macron. Voilà la stratégie qu'il pose depuis toujours. Et c'est la raison pour laquelle il incite, il provoque, il cherche même aujourd'hui, dans le mouvement social que nous connaissons, à faire en sorte que, par la brutalité de ses positions, par sa fermeture, son absence de volonté de négocier, y compris avec les syndicats réformistes, eh bien, il fait le choix de la tension. Et il fait le choix, dans ces cas-là aussi, de la radicalisation d'un mouvement qui le sert parce que c'est la possibilité de confronter deux blocs antagonistes et de se présenter à chaque fois comme celui qui est à la fois la raison, l'ordre, la modération, les hommes de bonne volonté. Et donc, c'est à la fois une stratégie qui est, peut être efficace, mais elle est dangereuse parce qu'elle renvoie la possibilité de l'alternance aux extrêmes. Et l'alternance, elle viendra bien un jour.
On viendra sur cette tension tout à l'heure dont vous parlez. Mais avant, une autre question.
Oui, on va rester sur les mutations du Parti Socialiste avec un autre élément remettant en cause le Parti Socialiste comme centre de gravité. C'est votre visibilité sur dans les médias, donc notamment avec François Hollande qui est assez omniprésent depuis qu'il n'est plus président de la République sur les médias. Donc est-ce que vous n'avez pas peur qu'il fasse de l'ombre au Parti Socialiste qui, selon vous, est en train de se reconstituer ?
Il y a une présence qui est liée à l'écriture d'un livre et au succès de librairie. Et donc, il y a eu une semaine pendant laquelle François Hollande a effectivement beaucoup occupé l'espace médiatique. Et il a plutôt été utile au sens où il a permis d'aider au dévoilement de ce qu'est le macronisme un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et je vais vous faire donner un scoop, c'est qu'en général, avant d'être connu, on est inconnu. Et la réalité, c'est que les militants socialistes ont fait le choix de quelqu'un qui était une incarnation du renouvellement, mais qui est absolument inconnu du grand public. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, 70% des Français ne savent même pas qui est Olivier Faure. Et je les comprends. Je n'ai aucune raison de me connaître jusqu'ici. Donc, il y a un microcosme qui sait qui je suis parce qu'il a suivi mon parcours. Pour les autres, ils apprendront à me connaître. Ils apprendront à connaître toutes celles et ceux qui m'entourent et qui sont des visages nouveaux de la politique.
Alors justement, on est allé interroger les Français, plutôt les Parisiens pour le coup, sur vous et sur le Parti Socialiste. On va les écouter.
Est-ce que vous connaissez Olivier Faure ?
Ah, bah moi personnellement, non.
Moi non plus.
Olivier Faure, est-ce que vous le connaissez ?
Pas du tout.
Olivier Faure, est-ce que vous le connaissez ?
De nom, ça me dit quelque chose, mais pas du tout.
Pas du tout. C'est le nouveau président du Parti Socialiste.
Ah, d'accord. Bon, oui, bah non, c'est pour ça qu'on ne le connaît pas. Hein.
Olivier Faure.
Bah oui, c'est le patron du PS.
Et selon vous, qui serait plus à même de rassembler?
Je sais pas.
Au sein de la gauche.
Que,
là, aujourd'hui.
Je crois pas. Je crois qu'il faut que les gens, enfin, les socialistes, ceux qui s'intéressent au Parti Socialiste et aux idées qu'il avance, réfléchissent à d'une part pourquoi il y a eu tellement de défections, à quoi c'est dû. Et puis, effectivement, se poser la question entre social-démocratie à l'allemande où on a vu ce que ça donnait, et puis une autre forme qui soit à la fois démocratique et peut-être plus audacieuse. Plus...
Et vous placeriez Olivier Faure dans quel...
Oh ben, il est quand même, c'est vrai qu'il est plus près de la seconde forme, il est plus près d'un socialisme un peu plus musclé que la social-démocratie.
C'est un social-libéral proche de la ligne Macron, quoi, dans le Parti Socialiste. Donc bon, c'est une succursale d'En Marche, quoi.
D'accord.
Grosso modo.
Et pensez-vous que le Parti Socialiste soit encore le centre de gravité de la gauche ?
Pas du tout. Je pense que l'expérience du pouvoir n'a pas été convaincante sur plein de sujets. Par exemple, en ce qui me concerne l'éducation, j'étais pas du tout convaincue.
Comment est-ce que vous pensez pas que le PS n'est plus le centre de gravité de la gauche en France ?
Bah oui, il peut être un peu minoritaire pendant quelques temps. Après, je pense qu'il y a les pensées, les courantes de ce parti sont pas morts. Donc voilà, peut-être qu'en effet, ils sont regardés via d'autres partis, mais je pense que c'est juste une période, une traversée du désert, et puis ça reviendra. Et ça se trouve, ça changera de nom et ça fusionnera avec une autre chose. Mais voilà, il y aura... Non, je pense pas que ce soit une mort définitive.
Alors, Olivier Faure, est-ce que vous avez une réaction à ces propos et est-ce que vous avez une réponse à une question plus générale ? Comment comptez-vous faire pour redonner du souffle au Parti Socialiste concrètement ?
Bon, d'abord, je comprends très bien ce que les auditeurs que vous avez interviewés disent. C'est assez logique que, un an à peine après cette défaite historique, on se demande à la fois qui est le Parti Socialiste, puisque, en fait, la direction vient de changer et donc on n'en connaît pas encore les dirigeants. Je comprends très bien aussi qu'on s'interroge sur ce que porte le Parti Socialiste. Quand vous avez des gens qui l'ont quitté, les uns pour partir à la gauche de la gauche, les autres pour partir à la droite, non pas de la droite, mais à la droite de la gauche, forcément on se dit quelle est son identité. Quand vous avez des gens aussi différents que Manuel Valls et Benoît Hamon, qui le quittent chacun pour prendre des bords opposés, vous dites, bon, ben, ça veut dire qu'il y avait dans ce parti des gens qui pensaient des choses très différentes. Donc, c'est incompréhensible. Et en même temps, je leur dis, ben, écoutez, justement, Manuel Valls et Benoît Hamon sont partis du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à retrouver une cohérence. Et nous allons tout faire pour que nous le fassions non pas en vase clos, mais nous le fassions avec les Français. Ce que j'ai dit dans le congrès du PS, c'est que nous allions organiser notre renaissance autour de grands chantiers. Nous allons commencer par le chantier européen. Nous allons donc à la fois chercher les contributions des Français via une plateforme numérique. Nous allons auditionner ce que la Terre compte de gens qui ont une voix experte sur le sujet. Nous allons ensuite proposer un texte à option au vote, non seulement des militants, mais aussi des Français qui le souhaiteront. Et nous organiserons des débats dans toute la France qui permettront à celles et ceux qui veulent accompagner la gauche dans sa renaissance de pouvoir le faire. Et ce sera ainsi sur tous les grands sujets qui intéressent la vie des Français. Et c'est comme ça que nous construirons. Vous aurez remarqué que dans le monde politique que nous connaissons, il n'y a que des offres verticales. De Laurent Wauquiez, Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, et en passant évidemment par Emmanuel Macron, il n'y a que du vertical. Nous allons proposer au contraire une offre qui est une offre démocratique, collaborative, une offre qui est horizontale et qui permettra à chacun de s'impliquer dans la Renaissance et dans le projet que nous voulons porter avec les Français.
Alors une fois n'est pas coutume, c'est maintenant le moment de l'instant engagé. Et aujourd'hui, il porte tout son nom. Il porte tout son nom effectivement puisque nous avons deux personnalités très engagées et représentantes d'Amnesty International. Tout d'abord Nadia Rabhi, membre du conseil d'administration d'Amnesty France. Bonjour.
Bonjour.
Et Patrick Noyon, responsable régional et local d'Amnesty International à Nevers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu aujourd'hui puisque il y a peu s'est achevé un des festivals que vous organisez chaque année. C'était la 6e édition, un festival très prenant pour lequel il y a eu de nombreuses conférences, nombreuses actions, nombreux débats, un concours également qui est organisé.
Voilà, c'était la 6e édition du Festival international des droits humains, international, parce que nous avons reçu cette année de jeunes Allemands qui sont venus partager cette expérience avec nous. Voilà. Donc, effectivement, 5 jours d'engagement à travers des conférences et des actions multiples.
Oui, alors ce festival cette année, enfin l'année dernière aussi, on avait fait venir des Allemands de la radio YCBS. Alors YCBS est une radio située à Berlin qui a rattaché un établissement scolaire initié par Mila Schmolk et qui travaille beaucoup sur la question à la fois de la diversité mais aussi des cultures sur peine. Et donc... ce travail se fait de manière naturelle avec cette radio puisque ils ont le même centre d'intérêt, notamment des jeunes qui sont préoccupés par ces questions-là et qui ont envie de travailler et de réfléchir avec d'autres jeunes. Et alors effectivement, le festival cette année, il a concerné trois thématique. Donc on est revenu à la fois sur l'état d'urgence, hein, c'est-à-dire qu'un an après, qu'en est-il ? Donc en invitant des intervenants qui peuvent être spécialistes sur la question, notamment ça a été le cas de...
Oui, vous avez eu Serge Portelli, qui est membre du syndicat de la magistrature. D'autres chercheurs comme François Durper, Pascal Boniface.
Tout à fait. Alors Pascal Boniface, il n'a pas pu venir puisqu'il a été agressé à Tel Aviv vendredi dernier lors de sa visite à Tel Aviv. Et donc il a été extrêmement désolé de ne pas pouvoir répondre à notre appel puisqu'on le recevait 4 jours à peine après. Par contre, il est intervenu par téléphone pour s'excuser auprès des spectateurs présents et expliquer le pourquoi il n'était pas venu. Voilà. Donc on a eu cet incident avec Pascal Boniface.
Nous avons eu également Benjamin Stora sur la question de la colonisation au Proche-Orient. Parce que la colonisation au Proche-Orient, c'était une thématique qui préoccupait beaucoup les jeunes. Notamment la question du Proche-Orient. Et ils sont particulièrement intéressés, d'autant que certains font partie du Proche-Orient. Hein, donc les Syriens, les Irakiens, des Kurdes. Et donc ils ont... voulu comprendre d'un point de vue géopolitique à la fois l'organisation stratégique des interventions qui peuvent être ciblées sur certains pays du Proche-Orient et mieux comprendre aussi les enjeux. Et puis nous avons terminé par une thématique qui concerne la problématique des quartiers.
Voilà. Quartier et sécurité.
Et donc on attend avec impatience la prochaine édition de ce festival.
Le 7e, voilà, qu'on va mettre en place très rapidement.
Et ça demande un certain temps d'organisation, c'est vrai.
Exactement.
Action locale, certes, mais aussi à une échelle plus large, puisque vous organisez également des voyages humanitaires. Vous êtes parti aussi sur le plan national à Calais, au mois fin février.
Oui, Calais. Alors Calais, nous y étions allons il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Ils avaient pu travailler en immersion pendant une semaine en compagnie du Secours catholique dans le camp même de Calais. Et certains sont revenus sur ces lieux là, qui était présent au premier séjour, et d'autres jeunes qui n'étaient jamais allés. Voilà. Alors c'est extrêmement mitigé. Tout ce qu'on peut en retirer, en tout cas, c'est un ressentiment d'assez grande désespérance, à la fois pour la ville elle-même, pour ses habitants et pour les personnes qui ont passé par là.
Est-ce que vous invitez les jeunes à se révolter, pacifiquement en tout cas ?
Mais en tout cas
à se mobiliser,
pas à se révolter, à se mobiliser. Pourquoi se mobiliser? Ça veut dire que on va partager avec d'autres jeunes, on va se rassembler, on va mettre en place une stratégie. Voilà, la révolte, elle doit venir quand on est vraiment acculé. Et veillons que notre société veille à ce que la jeunesse et les Français ne soient pas acculés. Parce que c'est un peuple qui s'est réveillé à travers l'histoire de façon violente. Et moi, je pense qu'il est encore capable de le faire.
S'engager pour autrui, quelque chose qui est toujours au cœur de l'actualité. Merci Nadia Rabhi et Patrick Noyon d'être venus nous en parler au micro des Nouvelles
Ondes. Merci à vous.
Alors maintenant revenons sur le plan de la politique nationale en évoquant deux aspects. On va d'abord évoquer la loi asile et immigration, on va revenir ensuite sur les mouvements sociaux liés à la réforme de la SNCF. Alors d'abord sur la loi asile et immigration. Alors quelques jours après que le projet de loi a été présenté, vous disiez qu'il fallait en finir avec la lepénisation des esprits et la logique du soupçon qui consiste à imaginer derrière chaque réfugié un délinquant ou un terroriste. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est touché par ce que vous appelez cette lepénisation des esprits?
Moi, j'observe même... Alors, non seulement il y a la loi qu'ils viennent de voter, la loi asile-immigration, la circulaire Collomb du mois de décembre qui permet le tri dans les centres d'hébergement qui sont pourtant des lieux d'accueil, qui sont des lieux d'accueil inconditionnels pour celles et ceux qui sont à la rue. Eh bien, j'observe maintenant que même le discours change. Il faut se rendre compte que le ministre de l'Intérieur a parlé de submersion. On n'est plus très loin du grand remplacement de l'extrême droite en termes de sémantique. Et cette submersion, de quoi parle-t-on? On parle, l'Europe nous a demandé d'accueillir 30 000 réfugiés. 30 000, nous en avons accueilli 6 000. Est-ce que quelqu'un peut parler de submersion? Est-ce que vous avez le sentiment que nous vivons un moment de submersion? Vous avez sans doute écouté la leçon inaugurale de François Héran au Collège de France. Il nous dit des choses très simples. Il nous dit qu'il y a moins de 5% de la population mondiale qui vit hors de son pays d'origine. Et donc, où sont ces vagues monstrueuses qui devraient aujourd'hui faire changer l'identité de la France? Il n'en est rien. Et la vérité, c'est que d'ailleurs, je ne sais pas quelles sont vos origines, mais la plupart des Français ont des origines qui sont extrêmement mêlées. Moi-même, je suis eurasien et je ne me sens pas pour autant moins français que les autres. Parce que la France, c'est aussi ça, c'est aussi sa culture, c'est aussi son passé et sa richesse.
Alors du coup, qu'est-ce que vous, si vous étiez président de la République, vous proposeriez pour traiter la question de la politique, la question migratoire en France?
La question migratoire, il faut la prendre là aussi au bon niveau. Et le bon niveau, c'est le niveau européen. On a des accords de Dublin qui sont absurdes. L'an passé, les accords de Dublin ont conduit la France à renvoyer vers d'autres pays européens 3000 réfugiés et à en recevoir 3000. C'est-à-dire qu'à part déplacer des gens d'un pays à l'autre en Europe, ça ne sert à rien. Et c'est même absurde au sens où imaginez que vous soyez rentré par l'Italie, mais que vous veniez d'une ancienne colonie française et que donc vous ayez le français comme langue en partage avec nous. Quel est l'endroit où vous allez le mieux vous intégrer potentiellement? L'endroit où vous parlez la langue ou l'endroit où vous ne connaissez rien de la culture? Eh bien, l'évidence, c'est qu'il faut qu'il y ait un droit d'asile, qui soit un droit d'asile européen, que quel que soit l'endroit par lequel on rentre en Europe, eh bien, on puisse faire une demande vers le pays dans lequel on a le plus de chances de s'intégrer, parce qu'on en parle la langue, parce qu'on en partage la culture, parce qu'on y a des parents, des amis, des gens qui pourront nous aider, un réseau personnel. Et après, il faut, en fonction de ce que les États peuvent accepter, peuvent absorber en termes de flux migratoires, faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre la demande de ces réfugiés et puis les capacités d'accueil des uns et des autres. Mais ce serait la meilleure façon de régler cette question. Mais qu'il s'agisse des accords du Touquet ou qu'il s'agisse des accords de Dublin, on frôle l'absurde. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que l'Europe, qui en 2007-2008 a été en mesure de sauver le système bancaire européen, d'y mettre des dizaines de milliards sur la table, est-ce que ce qu'elle a fait pour les banques, et il fallait qu'elle le fasse, est-ce que ce qu'elle a fait pour les banques, elle ne peut pas le faire pour des êtres humains? Est-ce qu'on ne veut pas voir que la question migratoire n'est pas une question qui est une question qui va se résoudre dans les prochains mois ou prochaines années. Ce sont des millions de femmes et d'hommes qui vont être tentés de tenter leur chance en traversant la Méditerranée dans les prochaines décennies. Il faut qu'on ait aujourd'hui un plan européen qui soit à la fois sur l'accueil et sur le développement, qui fasse l'un et l'autre, qui permette... Enfin, on ne quitte jamais son pays par plaisir. Est-ce que vous pensez qu'il est facile pour un jeune qui a 15 ans, 16 ans, j'en ai rencontré l'autre jour, qui ont mis 2 ans à arriver jusqu'ici? Et quand on a 15 ans ou 16 ans, marcher tout seul pendant 2 ans pour arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, il faut vraiment avoir ou la foi ou avoir la peur au ventre de rester chez soi ou simplement le sentiment que son horizon est bouché. Et s'ils le font, c'est parce qu'à un moment donné, ils se disent ben voilà, on n'a pas d'autre choix. Donc il faut que justement ce choix existe et que des gens qui veulent rester chez eux puissent le faire.
On comprend, ouais. On comprend votre point sur la politique migratoire. On va maintenant passer à un autre sujet chaud de l'actualité qui suscite également des mobilisations, c'est la réforme de la SNCF et le statut des cheminots. Quelle est votre position personnelle sur la réforme du statut des cheminots et plus largement sur la place du service public en France ?
Bon, moi je suis pour l'évolution de la SNCF. Je pense qu'on ne peut pas en rester là où nous en sommes aujourd'hui et qu'il faut réformer. Mais ça suppose de faire la bonne réforme. Et le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'a pas cherché à faire la bonne réforme, il a cherché à avoir une victoire idéologique, pensant que les Français détestaient les cheminots parce qu'ils étaient vécus comme des privilégiés, oui. Et qu'ils donc allaient pouvoir s'offrir leur scalp. Et qu'avec cette réforme, il allait pouvoir dire « voilà, j'ai réformé ». Sauf que les Français ont vite compris la supercherie, parce que le statut des cheminots n'est pour rien dans la dette de la SNCF. S'il y a une dette de la SNCF aujourd'hui, c'est simplement parce que les gouvernements successifs ont fait le choix d'investir, parfois à bon escient, parfois à mauvais escient, parfois pour sauver Alstom, parfois pour... Et donc, on a près de 50 milliards de dettes qui aujourd'hui pèsent drastiquement sur le résultat de la SNCF, alors que le résultat annuel de la SNCF est bénéficiaire. Mmh. Simplement, cette dette, le poids financier de la dette, les intérêts annuel à verser du fait de sa dette, c'est 1,5 milliard, qui interdisent à la SNCF de pouvoir investir là où elle le devrait pour pouvoir avoir un réseau de qualité. Et donc, soit on fait comme les Allemands qui ont, pour la Deutsche Bahn, épongé sa dette et permis à la Deutsche Bahn de retrouver une santé qui lui permet d'investir à nouveau, soit on considère qu'on ne fait rien et la situation continuera à se dégrader parce que la dette, elle est exponentielle.
Donc est-ce que vous seriez pour la privatisation de la SNCF ?
Absolument pas. Je vois pas... Il n'y a pas de sujet de privatisation. C'est même absurde que de vouloir privatiser une entreprise que nous avons nous-mêmes payée. Cette entreprise, elle appartient aux Français. C'est notre patrimoine commun. Et donc, la bonne réforme, c'est d'abord la question de la dette. Ensuite, c'est la question de l'investissement annuel. Et donc, à quel rythme on investit pour que le réseau arrête de se dégrader, puisqu'aujourd'hui, il est vieilli chaque année, sans qu'on puisse le rénover suffisamment pour le maintenir en état, de l'ordre de 500 à 700 millions par an. Et puis ensuite, il y a la question, non pas du statut des cheminots, mais du statut de tous ceux qui vont travailler dans le secteur ferroviaire et qui seront soit à la SNCF, soit à l'entreprise concurrente. Et donc c'est la question de la convention collective pour protéger les droits de ces salariés et faire en sorte qu'il y ait un socle commun qui soit à un niveau tel qu'il ne puisse pas y avoir de dumping social entre les entreprises. Voilà les vrais sujets, et malheureusement ils ne sont pas traités.
D'un point de vue plus politique maintenant, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez ont tous les deux déclaré qu'il était possible qu'un rassemblement entre la politique et le syndicalisme était possible dans le cadre de la convergence des luttes. Et si cela venait à se produire, même si vous dites défendre l'indépendance syndicale, serez-vous de la partie ?
Mais je comprends que les uns ou les autres cherchent à donner de l'ampleur au mouvement. Je crois que ce n'est pas la bonne voie pour y parvenir. Est-ce que vous pensez que des gens qui défendent le service public, une vision du service public, ont tous envie de se ranger derrière la bannière, soit des insoumis, soit du Parti Socialiste ? Il y a des gens qui manifestent sans avoir envie d'être récupérés par telle ou telle organisation. Il y a un temps qui est le temps social, et puis viendra un temps qui est le temps électoral. Après, c'est les partis politiques qui donnent des débouchés ou pas à ces luttes-là, et qui disent à ces gens qui sont venus se battre contre le gouvernement, voilà ce que nous proposons, et on vous propose de nous suivre. La meilleure façon de donner de l'ampleur à ce mouvement, c'est de dire à toutes celles et ceux qui partagent cette vision du service public, venez, n'ayez crainte, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas en train de d'épouser la cause de Besancenot, ou celle de Mélenchon, ou celle d'Olivier Faure. Vous le ferez simplement parce que vous pensez qu'il est juste de se battre aujourd'hui contre des projets gouvernementaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre et à faire avancer le schmilblick.
Donc on a pu trouver également des réactions internautes comme la suivante, je cite « Oui, c'est normal que ce bouffon traître soit sifflé, qu'il retourne avec ses potes chez les La République En Marche ». Ou encore une réaction suite à votre déclaration sur votre non-participation à la manifestation du 5 mai, certains disent, je cite « L'impuissance porte un nom fort ». Que pensez-vous des sympathisants de gauche qui ne trouvent pas crédible votre positionnement sur les cheminots?
Mais moi d'abord, la première réaction que j'aurais, d'abord je comprends qu'il y ait des gens qui, à travers moi, voient le bilan du quinquennat, mais ça tombe mal avec moi, puisque sur la loi El Khomri, j'étais précisément celui qui a cherché un compromis jusqu'au bout et qui l'avait trouvé et qui permettait de rassembler la gauche sur une vision commune. Bon, ensuite, la deuxième réaction, c'est que, en général, quand on veut étendre un mouvement, on ne siffle pas les gens qui viennent vous soutenir. Quand on veut justement donner de l'ampleur à un mouvement, on prend des gens différents. Moi, je ne partage pas tout avec celles et ceux qui manifestent. Évidemment, j'ai des divergences. Je ne suis pas 100% d'accord avec ce que portent Philippe Martinez ou Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot, etc. Mais dans un moment comme celui-là, je pense qu'il vaut mieux mettre nos différences dans notre poche et considérer que malgré ces différences, comme nous défendons une vision du service public, il faut au moins chercher à éviter le pire, c'est-à-dire la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui.
Mais justement,
ça ne veut pas dire que nous partageons tout.
Oui, bien sûr, mais c'est ce que Mélenchon, moi, je ne siffle Mélenchon jamais. Pourrait vous reprocher quand vous refusez, par exemple, le slogan, comme vous dites, de convergence des luttes.
Mais je ne refuse pas un slogan, je dis simplement que je ne le pense pas opérant. Et ensuite, je ne reproche à personne, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des gens qui veulent manifester, moi je n'ai pas été siffler les gens qui manifestaient et qui manifesteront le 5 mai par exemple. Je dis simplement que ça s'est déjà produit en septembre dernier sur les lois Pénicaud, à un moment où le mouvement aurait pu prendre de l'ampleur. Jean-Luc Mélenchon expliquait que ça se finirait par une manif sur les Champs-Élysées où on déferlerait par millions. D'abord, on n'a jamais déferlé. Et ensuite, qu'est-ce que ça a eu comme effet? C'est que ça a asphyxié le mouvement. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le gouvernement joue de cela. Il y a une espèce de jeu de complicité objective entre, d'une part, le gouvernement qui cherche à systématiquement se poser comme l'interlocuteur de ceux qui seront les plus radicaux face à lui, et les plus radicaux qui sont trop heureux de pouvoir taper sur l'épouvantail qui se sont choisis, qui est Emmanuel Macron. Et donc on a cette complicité qui fait que à chaque fois on a un gouvernement qui dit ben écoutez, c'est les gauchistes qui sont dans la rue, est-ce que vous voulez vraiment donner votre soutien aux gauchistes? Si vous êtes des gens de bonne volonté, si vous pensez que la SNCF ça ne marche pas comme il faudrait aujourd'hui, eh bien suivez-nous. Et c'est comme ça qu'on tue un mouvement. Et moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que ce mouvement puisse au moins permettre de stopper des projets qui sont des projets dangereux. Dangereux parce qu'il y a des choses qui se créent et qui sont parfois irréversibles. Quand on détruit le service public, c'est extrêmement compliqué de le remettre en place. Parce que, quand regardez ce qui se passe dans les pays voisins, une fois que c'est fait, eh bien, c'est très compliqué de revenir en arrière et ça coûte très cher si vous voulez renationaliser, si vous voulez. Et donc, il vaut mieux éviter ça. Voilà. Et pour éviter ça, ça suppose de se rassembler parce que la gauche divisée, c'est toujours un cadeau fait à la droite.
Merci, on passe maintenant à la chronique de Fabien.
Au 19e siècle, Marx avait théorisé la révolution permanente. Au 20e siècle, Mitterrand dénonçait le coup d'État permanent du régime gaulliste. Au XXIe siècle, la social-démocratie européenne a inventé la raclée permanente, ou débâcle chronique, gadin continu, fessée perpétuelle. Il n'est pas bon d'être social-démocrate en 2018 en Europe. Ainsi, en Allemagne, le SPD a fait son plus bas score depuis la Seconde Guerre mondiale, 20% des voix. En Autriche, pays de tradition social-démocrate s'il en est, le SPO stagne à 26%. Et en Grèce, le PASOK s'est écrasé, passant de 44% des voix en 2009 à 4% en 2015. Comment en est-on arrivé là? Ces trois partis, alliés du PS au sein du Parti Socialiste Européen, ont tous fait le choix de la fameuse troisième voie, de l'oxymorique social-libéralisme. C'est ainsi, par exemple, qu'en Allemagne, Schröder a saigné à blanc les travailleurs avec les fameuses réformes Hartz, celles qui obligent les chômeurs à accepter des mini-jobs plafonnés à 450 euros, sans cotisation sociale ni retraite. Ces réformes ont contribué à une impopularité croissante des sociaux-démocrates européens, ce qui a impacté leur score aux élections. Alors le SPO, le PASOK et le SPD ont tous trois choisi d'expurger le peu de socialisme qui leur restait pour s'allier avec la droite dans de grandes coalitions. Le résultat, on l'a dit, une baffe géante pour les sociaux-démocrates, mais surtout une extrême droite en forte progression. En Allemagne, les nationalistes de l'AfD ont fait entrer 94 députés au Bundestag, une première depuis la chute du Troisième Reich. En Autriche, l'extrême droite est aujourd'hui au gouvernement. Et en Grèce, ce sont les néo-nazis d'Obdoré qui ont fini troisième aux dernières élections parlementaires. Alors, au-delà de ces trois exemples, qui sont les plus significatifs, à peu près tous les partis membres du Parti Socialiste Européen souffrent d'une véritable bérésina. Pourtant, deux pays en Europe se démarquent du jeu. Le premier, c'est le Royaume-Uni. Il n'y a pas si longtemps, le Labour était à la ramasse, les Britanniques étaient encore écœurés par le bilan désastreux de Tony Blair puis de Gordon Brown à Downing Street, atlantisme outrancier, dérégulation à tout va, casse sociale et autres flexibilisations du travail. Puis tout d'un coup, alors que les travaillistes avaient obtenu le score désastreux de 30% aux voix des élections générales, des voix aux élections générales de 2015, ils ont grimpé à 40% en juin dernier, faisant sauter à la surprise générale la majorité absolue de Theresa May. À votre avis, qu'a-t-il bien pu se passer? Petit a, la concurrence libre et non faussée étant prônée par tous les partis politiques britanniques, chaque électeur a pu départager les candidats à l'aide d'une course de corgi, ce qui a favorisé le Labour. Petit b, la reine Elisabeth a décidé d'attribuer aux travaillistes un pourcentage de voix égal au nombre d'années au cours duquel elle compte rester au pouvoir. Petit c, les sympathisants travaillistes, dégoûtés par le social traîtrise de leur parti depuis 20 ans, ont fait le choix d'un chef de gauche et de gauche. La bonne réponse était la réponse C. L'élection improbable de Jeremy Corbyn à la tête du Labour a soufflé un grand vent d'espoir chez les Britanniques. Ardent défenseur des services publics au pays de Margaret Thatcher, il défend à tout va la renationalisation du train, de l'eau, de la poste. Il veut mettre fin aux frais d'inscription dans les universités, construire 1 million de logements sociaux, interdire les partenariats publics-privés et même mettre en place un véritable salaire minimum. Aujourd'hui, les blairistes qui criaient à tout va que le nouveau chef de l'opposition tuerait le Labour ne chantent plus. Au contraire, Corbyn est en train de ressusciter le parti qu'ils ont mis à sac. L'autre pays où vos alliés du Parti Socialiste Européen se démarquent, c'est le Portugal. Vos partenaires portugais ont compris que la troisième voie les menait dans le mur. Ils se sont donc alliés avec les communistes, la gauche radicale et les écologistes. Et ils ont ainsi mis fin à la politique d'austérité infernale qui étouffait le peuple portugais depuis la crise de 2008. Aussitôt, l'Union Européenne a crié au loup et a menacé les Portugais de sanctions financières s'ils n'acceptaient pas de se plier aussitôt à la doxa de la Commission. Les Portugais n'en ont eu que faire et le résultat est là. L'une des plus fortes croissances européennes, un taux de chômage qui continue de baisser, une quasi-absence de déficit budgétaire, un SMIC en hausse, des investisseurs toujours plus nombreux et une gauche qui se porte au beau fixe. Et en France, alors ? Eh bien, c'est la déroute pour le Parti Socialiste. En 2012, vous présidiez 59 départements, 23 régions. Vous aviez l'Élysée, la majorité à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Qu'en reste-t-il ? Un score de 6,36% des voix à l'élection présidentielle, du jamais vu depuis 1969, et seulement 30 députés contre 295 il y a un an. Et c'est sans parler de tous ceux qui sont partis, Valls, Montebourg, Le Drian, Hamon, Filoche, Delphine Bateau hier, la liste est longue. Même l'emblématique siège de Solfay va vous quitter. Voilà le résultat du quinquennat de François Hollande. Voilà le bilan de celui qui dénonçait son ennemi, le monde de la finance, et qui a fait le CICE et le pacte de compétitivité. De celui qui disait faire des jeunes sa priorité, et qui les a mis dans la rue avec la loi El Khomri. Les Français vous en veulent, et c'est parti pour durer car ils ne vous comprennent pas. Vous dites vous opposer à Emmanuel Macron, que vous qualifiez d'homme de droite, mais Emmanuel Macron c'est le monstre que vous avez créé, qui a mis en place votre politique économique, que vous avez mis en lumière. Et il était au Parti Socialiste, comme de nombreux députés LREM et ministres aujourd'hui, à commencer par Gérard Collomb et sa politique sécuritaire digne de Guéant avec son abjecte loi Asile et Immigration. Comment vous croire quand vous dites être dans l'opposition alors que trois de vos députés ont voté la confiance au gouvernement? 5 seulement contre. Comment vous croire quand vous expliquez qu'il y a une digue entre vous et En Marche alors qu'en novembre, votre député Olivier Dussopt est entré au gouvernement? Comment vous croire quand vous dites soutenir les cheminots alors que vos députés européens ont voté pour les paquets ferroviaires qui obligent les États à instaurer la concurrence? Si vous voulez renaître, pour reprendre votre expression, il va falloir de la clarté, Olivier Faure. Choisirez-vous le modèle gréco-allemand ou le modèle portugo-britannique? Je pense que François Mitterrand avait la réponse.
Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste.
Olivier Faure, une réaction ?
Oui, alors c'est un réquisitoire qui est long et ce qui supposerait peut-être encore une heure de débat avec vous, auquel je suis prêt. Tout ça est une lecture que j'entends, que je comprends, mais qui n'est pas vraie, qui n'est pas juste. D'abord parce que, par exemple, par rapport à Blair et par rapport à Schröder, dans le débat qui a eu lieu à cette époque-là, il y avait un Premier ministre en France qui s'appelait Lionel Jospin et qui précisément a refusé la troisième voie. Nous n'avons pas, les socialistes français, opté pour la troisième voie. Ensuite, j'entends ce qui est dit sur Corbyn et sur Costa au Portugal, mais précisément, le candidat que s'est choisi le Parti Socialiste à l'élection présidentielle s'appelait Benoît Hamon. Et il a fait 6,36. Donc, on ne peut pas expliquer que c'est simplement le fait d'avoir des gens qui seraient dans une dérive sociale libérale qui conduirait à la défaite. En l'occurrence, c'était celui qui portait les idées dites les plus à gauche, qui a porté le drapeau et qui a chuté de manière dramatique puisqu'il nous a emmené sur le score le plus faible depuis 50 ans. Et donc, il y a... et puis après, sur le fond, on pourrait y revenir point par point. Nous n'avons pas connu l'austérité en France. Enfin, il faut rappeler un chat un chat. Où sont les lois Hartz ? Il n'y a pas eu de loi Hartz en France, même si je comprends qu'on ait contesté les lois El Khomri. Il n'y a pas eu de loi Hartz en France. Il n'y a pas eu de destruction des services publics. Il y a eu au contraire de nouveaux droits qui ont été créés. Imaginez quand même que c'est dans ce pays que nous avons permis de partir à 60 ans pour les carrières longues. C'est dans ce pays que nous avons permis le compte pénibilité pour les métiers difficiles. Dans ce pays que nous avons fait le compte personnel d'activité, le compte formation, que nous avons fait le tiers payant généralisé. Donc vouloir plaquer sur un espèce de modèle européen, etc. Enfin, je veux bien qu'on soit comparé au PASOK, mais le PASOK, il est tombé pour quelle raison ? Parce que c'était un pays qui connaissait la corruption et que ses dirigeants étaient tellement corrompus que les Grecs ont décidé d'en finir avec ce parti qui était l'incarnation de ce mélange des genres, etc. Et aujourd'hui, qui est-ce qui dirige la Grèce ? C'est Tsipras. Qui est Tsipras, précisément ? Quelqu'un qui a commencé par l'aile gauche, mais qui a viré sur les social-démocrates et qui aujourd'hui veut venir avec nous sur les élections européennes. Il y a bien Varoufakis qui est parti très vite du gouvernement de Tsipras, mais qu'est-ce que vous choisissez ? Est-ce que vous choisissez la gauche qui est toujours dans l'incantation et qui dit toujours être plus pure parce qu'elle a les mains blanches ? Mais vous vous souvenez de cette phrase ? Peut-être ils avaient les mains propres, mais ils n'avaient pas de mains. Et moi, je préfère les gens qui ont justement la capacité, c'est le pouvoir, qui sont prêts à s'y confronter, qui sont prêts à faire avancer les choses. Parce qu'il y a une gauche qui, depuis un siècle, nous dit toujours qu'on n'est pas assez à gauche. Mais cette gauche-là, elle n'a jamais rien fait. Et puis, il y a une gauche qui, depuis un siècle, accepte de s'y mettre. Et c'est elle qui, depuis 36, à chaque fois, a conquis de nouveaux droits pour les salariés. C'est cette gauche-là qui a fait avancer la France.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Olivier Faure, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au micro des Nouvelles Ondes. Merci également à ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci Maxime, merci Rémi. On se retrouve très bientôt. Merci Gauthier pour la technique. Et merci à Fabien, une émission que nous avons réalisée tous ensemble. On vous souhaite à tous une excellente journée. Bon courage également si vous révisez et que vous préparez des examens en cette fin d'année. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions au micro et sur l'antenne des Nouvelles Ondes. À très bientôt. Bonne journée à tous.
Les Nouvelles Ondes.